Les éditions Télème, une marque audio de RB Media, présente Les Reines Infâmes, l'enchantement de la reine Faye, de Stéphanie Burgis, narrée par Shirley Dean. RB Media est le plus grand éditeur de livres audio au monde. Dénichez votre prochaine écoute coup de cœur et bénéficiez d'offres exclusives sur rbaudio.com. Chapitre 1. Dans une villa grandiose, sise depuis des siècles au cœur de Fiora, capitale de l'Empire Séraphin, 25 ans plus tôt. Gérard de Moireul avait 8 ans quand sa grand-mère le somma d'assister à l'exécution de ses parents. Il ne comprit pas de prime abord pourquoi les serviteurs se donnaient la peine de le réveiller. L'enfant avait été laissé depuis des semaines chez son aïeul, et durant tout ce temps, il ne l'avait jamais vu dans la villa, ni n'avait reçu la visite dans sa chambre d'un seul membre de sa domesticité. Après la première longue journée qu'il avait passée sans manger, il avait enfin trouvé le chemin des cuisines, où un vieil homme à la mine sévère lui avait servi, de mauvaise grâce, un petit déjeuner constitué d'un simple toast non beurré et d'une petite tasse en argile d'eau du puits. Sous les regards critiques du personnel, Gérard n'avait rien osé demander d'autre, quand bien même son ventre grognait fort. De ce jour, néanmoins, il avait effectué matin et soir, honteux, le pèlerinage aux cuisines, où il avait mangé ses maigres portions le plus vite possible, en s'efforçant d'ignorer le silence assourdissant dans lequel la pièce plongeait chaque fois qu'il y entrait. Il avait occupé le reste de ses heures à errer dans les longues galeries de marbre, toutes flanquées d'impressionnants bustes et statues, mais dépourvues de vie humaine. Il ne pouvait même pas regarder les passants par les fenêtres, car tous les carreaux de la villa avaient été habillés d'inamovibles rideaux de soie noire avant son arrivée. Lorsque deux mains dures et impatientes le secouèrent par l'épaule tôt un matin et que des voix rudes exigèrent qu'il se réveille, son premier espoir fou avait été que ses parents soient enfin rentrés du mystérieux et urgent voyage qui les lui avait enlevés depuis 2 semaines. Il ne discuta pas quand on lui remit des habits d'un blanc éclatant de ceux qu'il aurait pu porter pour une des fameuses somptueuses réceptions de sa mère, lors desquelles les archiducs impériaux et l'empereur en personne se mêlaient aux chanteurs d'opéra à la réputation scandaleuse et aux généraux héroïques. Ses boucles domptées par un peigne cruel et sa peau irritée par les vêtements raides dans le carrosse d'apparat aux rideaux tirés qui attendait dans la cour extérieure de la villa. Et il se figea en titubant sitôt qu'il découvrit la personne qui s'y trouvait déjà. Des yeux sombres qui scintillaient de fureur sur un visage mince. D'énormes pinces rubis piquetaient sa chevelure blanche et d'autres bijoux encore brillaient sur les moindres centimètres de sa peau exposée par sa robe de soirée décolletée. « Ceci, » siffla sa grand-mère, « est le prix de la faiblesse et de la trahison. Garde les yeux ouverts, ne montre aucune peine et apprends bien ta leçon ou je mettrai un terme définitif à cette honteuse lignée. » Gérard n'était peut-être pas encore au courant du scandale qui avait déferlé sur le continent pendant des semaines, les pots de vin acceptés, les secrets vendus aux ennemis de l'Empire, les vies de soldats perdues en conséquence. Mais même du haut de ses 8 ans, il sentait la vérité mortelle que contenait l'avertissement de son aïeul. Aussi ne détourna-t-il pas le regard durant tout ce qui suivit. Quand le bourreau personnel de l'empereur lut la liste des actes de trahison qui avaient été commis, la foule poussa des cris de rage vorace et ses parents furent décapités devant lui. Sous le regard de glace de sa grand-mère, il n'osa verser la moindre larme. Quand il eut regagné avec elle son nouveau foyer, Gérard avait la tête et le cœur embrumés. Et puis le lendemain, on va encore le réveiller. Cette fois, pour l'envoyer dans une académie militaire dans laquelle chaque élève et chaque professeur savaient exactement qui il était et ce que ses parents avaient fait. Peut-être sa grand-mère espérait-elle que ses camarades de classe exauceraient ses vœux les plus chers à elle, de sorte qu'ils ne vivent pas assez longtemps pour couvrir à son tour la famille de honte. Mais Gérard avait écouté et bien appris sa leçon. Il ne l'oublierait jamais. Il avait 22 ans quand il se retrouva au débotté à la tête d'un bataillon entier. Ses 3 commandants avaient tous été abattus, et ses hommes et lui étaient acculés dans une vallée sans possibilité de retraite. Cela dit, Gérard avait étudié l'histoire et la stratégie militaire dans la bibliothèque de l'académie qui avait été le refuge de ses jeunes années. Il voyait exactement comment retourner ce traquenard apparent en un goulet d'étranglement pour l'adversaire. Et la victoire surprise, éclatante, que ses hommes remportèrent sous sa direction fut la première étape d'une progression inexorable. Quand il eut 25 ans, les potins de la cour, comme les reporters des gazettes, le surnommaient le phare doré de l'Empire. Des articles dithyrambiques se répandirent à travers le continent, au sein des archiduchés de l'Empire Séraphin comme en dehors, qui narraient ses inarrêtables triomphes sur le champ de bataille, chantaient la gloire des cheveux dorés et brillants qui, selon un poète influent, éclairaient symboliquement le chemin de ses hommes vers la victoire, ainsi que la gloire du contrôle incessant, ascétique, qu'il exerçait.